Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens à Rome. Cette journée aura été marquée par la célébration des vêpres sur le tombeau de Saint Paul, l'apôtre des nations, symbole de l'ouverture de l'Église à tous les peuples, à toutes les cultures et à toutes les époques. Pour le pape François, le dialogue œcuménique est devenu un aspect essentiel du ministère de l'évêque de Rome et a permis d'approfondir la compréhension de ce ministère. Le pape François qui pense qu'il faudrait accorder plus de place aux femmes dans la vie publique, mais il souligne en même temps que leur présence est indispensable aux côtés de leur famille. Dans ce magazine, nous parlerons aussi de la mission du cardinal Sarah aux Philippines et de la lutte contre la lèpre, une maladie qui exclut et handicape physiquement et moralement. Enfin, d'émission, ne manquez pas les livres pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Tous les ans, c'est dans la basilique Saint-Paul hors les murs que le pape conclut la semaine de prière pour l'unité des chrétiens par la célébration des vêpres en présence des délégations fraternelles. Et le pape François n'a pas voulu déroger à la tradition. Cette grande basilique patriarcale, qui fut le plus vaste édifice chrétien au monde jusqu'à la construction de Saint-Pierre au XVIe siècle, a été fidèlement reconstruite à la suite d'un incendie. Des médaillons représentant les papes ornent la frise de cette ancienne basilique qui abrite la tombe de l'apôtre Paul, décapité non loin de là sur la route d'Ostie. C'est à Saint-Paul-hors-les-Murs que le pape Jean XXIII avait choisi d'annoncer son intention d'ouvrir un concile œcuménique, Vatican II. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens était placée cette année sous le thème « Jésus-Christ ne peut être divisé », le vigoureux appel que Saint-Paul place au début de sa première lettre aux Corinthiens. Un groupe d'étudiants de l'Institut œcuménique de Bossé en Suisse est venu à Rome pour assister aux vêpres présidées par le Saint-Père. Manuela Figi les a rencontrés. Ils viennent d'Asie, d'Afrique, du Proche-Orient, d'Europe et des Amériques. Destinés à être responsables œcuméniques dans leur diocèse, ces étudiants de diverses confessions chrétiennes vivent, étudient et prient ensemble. Pour eux, cette expérience vécue à l'Institut œcuménique de Bossé montre une fois de plus que l'œcuménisme se vit avant tout dans la rencontre avec l'autre, dans un dialogue de vie au quotidien. Regard croisé de trois étudiants de l'Institut, un pasteur de l'église protestante méthodiste du Bénin, une religieuse maronite du Liban et une jeune théologienne luthérienne.
Oui, c'est super intéressant de voir ou de fêter ensemble, de prier ensemble. Parce que pendant longtemps dans l'histoire, on n'avait pas un échange, on n'avait pas des cultes ensemble. Et maintenant, de prier ensemble pour l'unité des chrétiens avec le pape et avec notre groupe qui est vraiment où il y a des personnes de presque toutes les dénominations et confessions du monde entier. Ça, c'est quelque chose de vraiment incroyable.
Ça, c'est quelque chose. C'est très grandiose. Le fait que je sois là déjà à Rome, ça, c'était le rêve de ma vie. Mais en plus, puisque je suis là en formation pour des études œcuméniques, cette prière vient pour clôturer toute une démarche de 7 mois d'études œcuméniques et d'expérience œcuménique. Et là, je pense que c'est l'apogée. C'est vraiment l'apogée d'être là avec tout le groupe de différentes traditions, différentes communautés ecclésiales, que nous soyons là au sein d'une église catholique, tout autour du pape.
C'est un honneur pour nous d'être présents à cette cérémonie qui, du reste, donne une connotation mondiale. Ça nous donne aussi le privilège de parler œcuménique, de parler dialogue.
Parler œcuménisme, cet œcuménisme, vous le vivez au quotidien en étant à l'Institut de Bossé. C'est quoi pour vous l'œcuménisme au quotidien ?
Concrètement, c'est vivre notre humanité, c'est vivre avec cette différence, dans cette ouverture. C'est le fait de démissionner à soi et de s'ouvrir. Et là, l'expérience de Bossé, ça m'a aidé vraiment à vivre dans deux différents domaines. La première, c'est que j'ai appris à me connaître beaucoup plus en tant que catholique, en tant que maronite d'une église orientale catholique. Mais en plus, j'ai appris à faire la connaissance de l'autre qui est tout à fait différent. Au niveau théologique, peut-être nous avons plein de divergences, mais ce contact humain, c'est ce que je suis en train de vivre à Bossé.
Un problème, c'est très souvent qu'on ne se connaît pas. Il y a beaucoup de malentendus. Il y a, dans beaucoup de villes, il y a une paroisse protestante, une paroisse catholique, où moi je parle de la situation en Allemagne, mais on ne se connaît pas, il y a des préjugés. Et oui, ça serait bien de surmonter ces préjugés pour se connaître mieux et pouvoir qu'on a la même origine et que c'est aussi Jésus-Christ qui nous unit, ou qu'on a la même base. L'œcuménisme, ce n'est pas seulement faire des études ensemble, traiter les questions théologiques, mais aussi partager la vie. La vie, on mange ensemble, on prie ensemble, on discute, on a la vie sociale. Et tout ça, ça c'est l'œcuménisme. Il y a des amitiés qui ont commencé ici. Et, oui, et comme ça, on comprend de plus en plus les autres.
Nous croyons que ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. C'est pour cette raison que nous ne parlons pas de ce qui nous divise, mais plutôt de ce qui nous unit, le Christ.
Des propos recueillis par Manuela à Fiji. Le cardinal Robert Sara, président du conseil pontifical Corunum, se rendra du 26 au 31 janvier aux Philippines, dans les zones ravagées en novembre dernier par le typhon Eyan. En tant qu'émissaire du pape François, il apportera son réconfort spirituel à la population engagée dans la reconstruction. Il encouragera les secouristes et présentera de la part du Saint-Siège un projet de construction d'un orphelinat et d'une maison de retraite pour les personnes âgées. Le complexe englobera entre autres un couvent de religieuses, une chapelle et un dispensaire. Corunum avait déjà débloqué une première somme de $150,000 immédiatement après la catastrophe. Pendant son séjour, le cardinal Sara rencontrera les évêques des Philippines, réunis en assemblée plénière, le président de la République Benigno Aquino, et il visitera Tacloban, la localité la plus touchée. Selon Caritas Philippines, le typhon Eyan a fait plus de 5 500 morts, 26 000 blessés, 2 000 disparus et près de 4 millions de déplacés. Le pape François a une nouvelle fois insisté ce samedi matin sur la contribution indispensable des femmes dans la société. Il a souhaité que la présence féminine se renforce également dans l'Église et dans les lieux où sont prises les décisions importantes, tout en affirmant que leur place au sein des familles était une option préférentielle. Le Saint-Père s'adressait aux membres d'une association féminine italienne, le CIF, Centre Italien Féminin, réunis pour leur congrès national. Jean-Baptiste Cocagne.
Depuis près de 70 ans, cette association est engagée dans le domaine de la formation et de la promotion humaine et milite en faveur de la place des femmes dans la société et dans la communauté ecclésiale. L'occasion pour le pape François de redire que les femmes doivent bénéficier de nouveaux espaces et de nouvelles responsabilités dans l'Église, dans la société et dans le monde du travail. Le souverain pontife est toutefois convaincu que les femmes ont un rôle irremplaçable à jouer au sein des familles. Ainsi, si le génie féminin mérite d'occuper une place importante dans l'espace public, il est, selon lui, encore plus essentiel et même préférentiel au sein des familles, cellule fondamentale de la société. La présence des femmes au foyer est plus que jamais nécessaire pour la transmission aux générations futures de la foi et des principes moraux. La question qui se pose est donc de parvenir à conjuguer ces deux exigences. La solution de ce dilemme passe, selon le pape François, par le discernement et la prière. Les membres du Centre féminin italien sont donc invités à approfondir leurs réflexions sur le rôle de la femme dans la société et sa mission dans le monde, en priant la Vierge Marie de les accompagner de sa présence maternelle.
La lèpre n'a pas été éradiquée malgré les progrès enregistrés ces dernières années. Elle est encore présente dans 115 pays. Comme chaque année, le dernier dimanche du mois de janvier, on célèbre la journée mondiale annuelle des lépreux. Guérissable depuis 1980, la lèpre continue de se répandre dans les régions défavorisées. Les deux pays les plus touchés sont le Brésil et l'Inde. En 2012, plus de 230 000 nouveaux cas de lèpre ont été recensés dans le monde, dont 10% sont des enfants. 2,5 millions de lépreux guéris souffrent de difformités invalidantes qui les transforment en parias. Plus la lèpre est dépistée précocement, plus elle est facile à combattre. Le dépistage précoce permet par ailleurs d'éviter les infections et les séquelles paralytiques. En France, l'Ordre de Malte organise ces jours-ci une quête nationale. Cette quête est nécessaire pour dépister, soigner les malades, réinsérer les patients guéris, former les médecins et le personnel de santé, financer la recherche. L'Ordre de Malte France intervient dans 17 pays. À Dakar, le centre hospitalier de l'Ordre de Malte est un véritable centre de référence, l'unique hôpital où des soins spécifiques sont dispensés pour tous les lépreux du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest. Et en ce dernier dimanche de janvier, on célèbre par ailleurs une journée d'intercession pour la paix en Terre Sainte, à laquelle participent des jeunes du monde entier. Pour la sixième fois, dans plus de 5000 villes, des jeunes assureront 24 heures de prière et d'adoration eucharistique ininterrompue pour invoquer le don de la paix. Dans un message, le patriarche latin de Jérusalem les remercie chaleureusement et insiste sur la force de la prière. Tout le Moyen-Orient, dit-il, a besoin de paix. La population demande que cesse le fracas des armes, les injustices et les vexations. De son côté, l'évêque d'Évry a attire l'attention sur la situation désastreuse, scandaleuse et injuste qui prévaut à Gaza. Monseigneur Michel Dubost faisait partie de la coordination Terre Sainte qui s'est rendue du 11-16 janvier à Jérusalem, Tel Aviv et Gaza pour prier avec la communauté chrétienne et plaider pour la paix. Pour Monseigneur Pierre Burcher, qui faisait également partie de la coordination, la politique d'Israël envers les Palestiniens est incompréhensible. La construction du mur de séparation par Israël a brisé la vie de nombreux Palestiniens. L'évêque de Reykjavik en Islande réclame une intervention de la communauté internationale pour mettre fin à l'agonie liée à l'occupation, car Israël cherche continuellement à s'étendre au mépris du droit international. La souffrance des chrétiens est encore renforcée par le fait qu'ils sont une minorité et que leurs droits sont de moins en moins respectés. Avant-dernier volet de ce magazine, consacré comme chaque semaine à notre rubrique « Livre pour Dieu ». Je vous laisse en compagnie de Catherine Aubin.
Cette semaine, nous continuons le Livre pour Dieu avec le dernier livre de Jean-Claude Guibaud, « Je n'ai plus peur ». La semaine dernière, Jean-Claude Guibaud nous a parlé du pourquoi de ses aveux, du fait que chaque homme est capable de tout en matière de violence et surtout de cette valeur fondamentale à redécouvrir aujourd'hui en société, à savoir vivre ensemble. Dans ce deuxième volet, il nous explique comment il a été touché par la force des faibles et comment, malgré son inquiétude, il demeure dans l'espérance.
Je suis à la fois inquiet, soucieux des risques que courent toujours nos sociétés, mais empli d'espérance. Parce que j'ai appris l'espérance auprès de gens qui, eux, avaient toutes les raisons de désespérer et qui m'ont donné cette leçon-là que j'ai jamais oubliée.
Comment avez-vous découvert la force des faibles ?
J'ai pris des leçons sans cesse et j'ai souvent et de plus en plus été troublé par la capacité, par la joie, par la force des faibles. Première leçon, d'abord quand j'étais journaliste, j'ai souvent été ébloui par la détermination et l'espérance dont étaient capables des gens qui avaient tout perdu et qui étaient menacés de toutes parts et qui trouvaient en eux la force de continuer, de recommencer et même de rire et d'être joyeux et quelquefois d'être plus joyeux que nous. Et puis ensuite, dans ma vie quotidienne, à Paris et tout, je cite quelques exemples, j'ai rencontré des personnages considérés comme des faibles, des fragiles, des vulnérables, voire des handicapés, et j'ai trouvé en eux une force qui m'a transformé. Et je cite deux exemples d'auteurs dont je me suis occupé en tant qu'éditeur et qui sont devenus des amis. Le premier, c'est Alexandre Jolien, qui était un handicapé grave puisqu'il avait été étranglé dans le ventre de sa mère par le cordon ombilical et qu'il avait vécu les 15 premières années de sa vie dans un institut spécialisé en Suisse. Et grâce à l'intelligence d'un éducateur, alors qu'il était promis à avoir une vie de légumes, comme il dit lui-même, il a pu, par l'ordinateur et par Internet, faire des études, passer son bac, passer une agrégation de philo, et il est devenu maintenant un philosophe dont les livres sont traduits dans le monde entier et qui est devenu une figure magnifique, rédemptrice pour toutes les associations qui s'occupent des handicapés. Et Alexandre Jolien, c'est un personnage, en effet, que j'ai connu tout jeune. Maintenant, il a 3 enfants et il m'a donné cette formidable leçon. Et l'autre, c'est un chercheur, un universitaire, qui s'appelle Jacques Semelin, dont les livres sont traduits aux États-Unis, qui enseigne à Sciences Po. Jacques Semelin, à l'âge de 12 ans, il a appris, au cours d'une visite médicale dans un lycée, qu'il allait perdre progressivement la vue et qu'il serait complètement aveugle à 50 ans, ce qui est le cas aujourd'hui. Et il a organisé toute sa vie pour lutter contre cette malédiction. Il a choisi le métier le plus difficile pour quelqu'un qui perd la vue, c'est être un universitaire et un chercheur. Nous déjeunons ensemble au moins une fois par mois, et chaque fois je prends auprès de lui une leçon de force et de courage. Alors c'est ce que j'appelle la force des faibles ou la force des fragiles. Je trouve ça magnifique et c'est très important dans une société qui ne cesse d'exalter les malins, les sportifs, les costauds, etc.
Quelle est votre dernière peur ?
La mort, comme tout le monde. C'est d'ailleurs le titre du dernier chapitre de ce petit livre. La dernière peur, comme tout le monde, évidemment, je me prépare. J'aurai 70 ans au mois de mai. Alors je sais que le temps se fait plus court qu'autrefois. Dans ce dernier chapitre, je cite 2 choses. Je cite un très beau poème d'Aragon qui s'appelle « J'arrive où je suis étranger », c'est-à-dire la vieillesse et la mort. Et puis je cite quelque chose de plus joyeux, parce que c'est un souvenir d'enfance qui m'a toujours habité. C'est dans les lettres de mon moulin, la chèvre de M. Seguin. Blanquette, elle s'appelle, qui s'échappe évidemment de la sécurité de la ferme où elle est, de M. Seguin, et qui s'en va dans la montagne, batifoler, être joyeuse toute la nuit, alors qu'elle sait évidemment évidemment qu'au matin, le loup la dévorera et elle se fixe comme objectif, je vais essayer d'être vivante et joyeuse jusqu'à la fin. Et je reprends volontiers à mon compte cette résolution.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Concernant l'espérance, je pense que l'espérance ne peut pas se prêcher. Elle ne peut pas être décrite comme une leçon de morale. Elle ne peut pas faire l'objet d'une prédication, parce que ça devient assommant. C'est comme la morale. Mais elle ne peut que se partager. Et pour partager l'espérance, il faut être soi-même dans la joie. Je pense que la joie qu'on peut vivre, c'est une façon magnifique d'apporter de l'espérance aux autres, et davantage que tous les discours.
Jean-Claude Guibaud, auteur de l'ouvrage « Je n'ai plus peur », interrogé par sœur Catherine Aubin. Et c'est l'heure de retrouver le père Pascal Montavis pour le commentaire de l'évangile de ce dimanche 26 janvier, le troisième du temps ordinaire. C'est l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. « Venez derrière moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes, laissant leur filet, ils le suivirent. »
L'évangile de ce jour nous parle de Jésus qui se retire en Galilée à l'annonce de l'arrestation de Jean-Baptiste. C'est donc à Capharnaüm que le Seigneur commencera à prêcher et appellera ses quatre premiers disciples. Voyons de plus près ce que nous enseigne ce passage. Jésus préfère se retirer en Galilée pour commencer sa prédication, car il est encore trop tôt pour demeurer à Jérusalem. La ville sainte sera le lieu de sa passion. Mais auparavant, il faut qu'il ait le temps d'annoncer les mystères du royaume des cieux. Ses premières paroles sont les mêmes que celles de Jean-Baptiste. « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Cet appel à la conversion nous rappelle une dimension essentielle de notre vie de baptisé. Être prêt à changer de vie pour se mettre à la suite du Christ. Le changement fait partie de notre vie de foi. Nous ne sommes jamais condamnés à être enfermés dans nos erreurs, nos péchés. L'Église nous le rappelle lorsque nous fêtons la conversion de saint Paul le 25 janvier. Il s'agit là de l'unique conversion qui est proposée comme fête dans le calendrier liturgique romain. Cela nous montre que rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur a transformé la vie de Paul, il peut aussi transformer la nôtre. Dès que Jésus débute sa prédication, il commence par choisir des disciples. Simon, appelé Pierre, son frère André, puis deux autres frères, Jean et Jacques, fils de Zébédée. Le récit de leur appel est riche en enseignements. Tout d'abord, Jésus appelle deux pêcheurs, Simon et André, et leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Par ces paroles, Jésus montre que lorsqu'il appelle quelqu'un, il respecte l'identité même de cette personne. Le Seigneur nous rejoint dans ce que nous sommes et il nous montre un chemin nouveau. Toutefois, si Jésus respecte Simon et André dans ce qu'ils sont, il les transforme aussi. Simon prend un nom nouveau, il s'appellera désormais Pierre. Ce nom reflète la mission qui lui est confiée. Pierre est ce roc que le Seigneur a choisi pour édifier son Église. Il en est le chef et le serviteur. Enfin, il est dit à propos de Pierre et André, aussitôt laissant leur filet, ils le suivirent. En ce qui concerne Jacques et Jean, il est dit, aussitôt laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Ce qui est commun, c'est que les deux groupes de frères répondent aussitôt à l'appel de Jésus. Mais à propos de Pierre et André, il n'est pas dit qu'ils quittèrent leur père, mais seulement leur barque. Certains ont vu dans cette différence la distinction entre un appel à suivre le Christ dans la vie séculière ou dans la vie régulière. Quoi qu'il en soit, cette distinction montre la spécificité de l'appel du Christ. En ce dimanche, prions nous aussi pour entendre et répondre à l'appel du Christ. Le Seigneur nous connaît et son appel s'inscrit dans ce que nous sommes profondément. Toutefois, le Seigneur bouleverse nos plans, nos idées, pour nous proposer les siens au service du royaume.
Et c'est sur ce commentaire de l'Évangile que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican. En français, bon dimanche à tous.